sur 88.3.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a aujourd'hui 150 ans exactement qu'eut lieu la séance royale.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 14 juillet 1937.
Ce jour-là, le roi Louis XVI, admettant les principes du régime constitutionnel et les droits essentiels de l'homme et du citoyen réclamés par les trois ordres sans distinction, reconnut que la révolution de la liberté était vraiment nationale. Mais en se prononçant pour le maintien des privilèges et des prérogatives de l'aristocratie, il marqua l'objet propre de la révolution de 1789, qui fut celle de l'égalité dans la liberté.
Devenait une icône républicaine. Ce qui avait été assassiné le 20 juin 1944, et ça je crois que c'est vrai, les miliciens qui l'ont assassiné savaient que tout était perdu pour eux. Mais ils savaient aussi que cet homme contribuerait à la restauration de la République. Et ce qu'ils tuent en Jean Zay, c'est la République dont ils ne veulent pas qu'elle renaisse. Parce que dans Souvenir et Solitude, cette réflexion que mène Jean Zay, c'est comment faire une République plus forte et plus juste. C'est ça qu'on assassine. Le travail de la mémoire. On dit souvent devoir de mémoire, j'aime pas cette expression. La mémoire, c'est un travail de mémoire et devoir d'histoire. Je pense que les historiens, je parle des historiens français, ils se sont mis au travail, au fond, sur ces questions-là, tardivement.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le troisième épisode de cette rapide histoire de Jean Zay, héros de la République qui a seulement 32 ans en 1936, devient l'extraordinaire ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement de Front populaire, et à qui l'on doit toujours une impressionnante liste de réalisations égalitaires et républicaines. On le dit une fois de plus, l'héritage que Jean Zay nous a légué est énorme. Prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, 3 degrés d'enseignement, unification des programmes, classes d'orientation, activités dirigées, enseignement interdisciplinaire, reconnaissance de l'apprentissage, sport à l'école, œuvre universitaire, les bibliobus, et même un projet d'ENA ouvert aux enfants du peuple. Et en tant que ministre des Beaux-Arts, Jean Zay nous a légué CNRS, Musée National des Arts et Traditions Populaires, Musée d'Art Moderne, Palais de la Découverte, la Réunion des Théâtres Lyriques et Nationaux, le Festival de Cannes, et une cohorte de mesures de protection des créateurs de culture, cinéma, théâtre, édition, etc. Au-delà de ce révolutionnaire héritage social, pédagogique et culturel, la figure de Jean Zay est aussi celle d'un courageux républicain, l'un des trop rares et tout premiers résistants aux barbaries fascistes. Pour poursuivre cette évocation de Jean Zay, vous êtes aujourd'hui à nouveau avec l'une de ses deux filles, Hélène Moucharzet. Bonjour madame.
Bonjour.
Cette émission s'ouvre sur le thème de l'école. L'école républicaine selon le gouvernement de Front populaire de 1936, contre l'école du culte du maréchal Pétain selon le régime fasciste de Vichy. Comme si Pétain avait engagé un duel contre Jean Zay. À la vraie gauche, Jean Zay, jeune et brillantissime ministre de l'Éducation qui, bien qu'encarté au Parti radical, est un authentique serviteur du peuple et des idéaux de la gauche républicaine. À l'extrême droite, Philippe Pétain, instrument du complot des milieux d'affaires français qui ont tout fait pour que les nazis envahissent la France sans trop de peine.
J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
C'est à ses enfants, à leurs frères, aux petits-enfants des écoles de France, que le maréchal qui voit en eux l'espoir du pays est venu parler simplement comme il sait le faire dans la modeste école d'un village de l'Allier.
Eh bien maintenant vous allez vous asseoir.
Pétain.
Il ne faut pas que vous l'écoutiez debout.
Rentrée scolaire de 1940.
Jeunes élèves des écoles de France, si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, au moment où vous recommencez une année scolaire, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France. Bon travail, bon courage et bon résultat.
Hurrah, merci.
Pétain, comme nombre de chefs d'État totalitaires, a bien compris l'importance du contrôle des esprits, notamment les esprits des jeunes générations, contrôle par l'école, qui pour Vichy n'est plus un lieu où l'on éclaire le citoyen, mais où l'on asservit à la propagande antirépublicaine et au culte du chef. Comme par exemple dans l'Espagne fasciste que Pétain admira beaucoup quand il était ambassadeur auprès du dictateur Franco. Or, comme la plupart des gens de sa caste de bourgeois et de nobles anti-républicains, Pétain est depuis des décennies obsédé par l'école. Surtout depuis qu'elle est infestée par ces instituteurs rouges et républicains, épouvantables hussards noirs dont l'efficacité et l'engagement auprès des enfants du peuple en font de redoutables ennemis qui chaque jour renforcent la gueuse, cette république honnie par une grande partie des droites françaises de l'époque, qui entre autres choses n'ont pas digéré la séparation de l'Église et de l'État de 1905 par exemple. Droite des 200 familles qui en 1936 prônaient plutôt Hitler que le Front populaire, qui d'ailleurs firent tout pour tenir parole.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ajoutez que le fait que Jean Zay, bien que non israélite, était accusé de l'être parce qu'il avait des ancêtres juifs du côté de son père.
Je t'ai gardé dans mon cœur.
De plus, très préoccupé par le culte de sa propre image et jaloux de la popularité de Jean Zay chez nombre d'enseignants, on peut se demander si Pétain ne voyait pas en Jean Zay un ennemi personnel.
C'est également au profit du Secours National, pour lutter contre la misère, que sont vendus actuellement les portraits du maréchal.
Donnez-moi les photos.
Oui, maréchal.
Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme, avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté.
Oui, et puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra.
Après avoir visité l'exposition scolaire, le chef de l'État s'adresse en termes émouvants aux instituteurs qui représentent ici les écoles de tous les coins de France.
Messieurs les instituteurs, vous et moi, nous travaillons à la même cause. La France vous parle par toutes ses voix. Écoutez-les bien et vous direz ensuite aux petits Français ce qu'il faut leur dire.
Jean Zay ne fut-il pas une obsession de Pétain ? Toutes les mesures et réformes de Jean Zay ayant été de réels succès, qui ont d'ailleurs été poursuivies après la guerre, Jean Zay fut, chose rarissime, un ministre de l'éducation nationale apprécié des professeurs, notamment chez nombre de jeunes professeurs qui lui devaient beaucoup. Alors qui semblait mieux représenter la jeunesse ? Le ministre républicain d'une trentaine d'années ou la momie vivante du maréchal fasciste ?
Oui, puis en somme, avec mon pipi, on me reconnaîtra.
Jean Zay représentait absolument tout ce que Vichy détestait. C'était une cible privilégiée, d'abord, oui, ministre du Front populaire et ministre de l'Éducation nationale, un secteur dont Pétain reconnaît l'importance pour endoctriner la jeunesse. Il était d'origine juive, bien évidemment, franc-maçon, partisan de la résistance la plus forte à Hitler, anti-Minuquois, etc. Et en plus, je crois que je vous avais raconté deux épisodes un peu personnels pour lesquels Vichy devait lui en vouloir. Un épisode en 1933, Pétain vient à Orléans. Il vient à Orléans inspecter les installations de défense passive et le préfet est avec lui et le député. Il y a une réunion à la préfecture. Le préfet dit à Pétain, voilà, il y aura le député. Et Pétain dit, mais que vient faire le député dans cette affaire-là ? À ce moment-là, mon père entend cette phrase, il prend son chapeau et il sort de la salle.
Ce que Pétain vient de dire, c'est, mais que vient faire un représentant du peuple et de la voilà. République ?
Et donc, Jean Zay s'en va. Le préfet lui court après, affolé, monsieur le député, mais pourquoi vous partez, etc. Bref, il s'en va et le lendemain, il dépose une question orale au chef du gouvernement, qui est très embêté, évidemment. Donc, ça a été sans doute une première cause. Une autre cause, sans doute, est que, comme vous savez, Pétain a été nommé ambassadeur d'Espagne.
Auprès de Franco.
Et Jean Zay a été très hostile à cette nomination. Alors, disons que c'est deux raisons personnel, mais les raisons politiques ont certainement joué. Donc, en effet, je crois que c'était une cible très, très privilégiée. Et c'est pas par hasard que Jean Zay a été une des premières victimes politiques de Vichy. Son procès, 4 octobre 40. Alors moi, quand on me parle du premier Vichy qui serait un peu cool, etc., et qui se serait durci à partir de 43-44, franchement, Vichy, il est tout entier là, dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, avec toute l'idéologie et tout ce qu'il porte, avec, évidemment, pas tout seul, mais avec les gens d'extrême droite qui l'entourent.
Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française.
Quel est cet affreux bipède au nez super aquilin, à l'expression vile et laide, à la lippe zinzolin, saliupin.
Radio Paris.
C'est toujours le saliupin. Oui, c'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à reprendre avec nous en chœur. Saliupin, saliupin, c'est toujours le saliupin.
Le maréchal, à plusieurs reprises déjà, vous a dit ce qu'il entendait par sa révolution sociale.
Georges Lamiran,
il avait le sentiment profond,
secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement de Vichy,
que nous vivions dans un régime social injuste, dans lequel il y avait trop de misère, oui, et trop d'injustice. Eh bien, c'est ce monde que le maréchal veut changer. Il a la volonté farouche d'apporter plus de bonheur en France, en demandant à chacun de participer à cet effort commun. Voilà, chers jeunes, d'abord la révolution sociale du maréchal.
On me demande quelquefois, mais vous êtes socialiste? Moi, socialiste, jamais de la vie. Je suis social, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand on est humain, on est social. Je suis bon pour tout le monde. Je cherche à rendre des services partout où j'en ai l'occasion, mais je n'ai pas de système spécial pour rendre ces services. Par conséquent, je suis social, je ne suis pas socialiste.
Les fascistes s'obligent à ancrer leur discours dans du social. On le voit encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, absolument. Un discours social, mais toujours accompagné de nationalisme. Et on n'est pas loin du national-socialisme.
Dans nazi, il y a national et socialisme. Mais ce socialisme, il vient pas de n'importe où. Donc ces idées, ces pratiques, ces innovations, elles sont pillées souvent par les gens de l'extrême droite. Ça se voit dans Souvenirs et solitude. Jean Zay raconte une anecdote. Le maréchal Pétain, donc sous l'occupation déjà, aperçoit des enfants avec leur instituteur dans un pré.
Il est en voiture dans la campagne et il voit dans un champ des enfants qui sont avec leur instituteur. Il fait arrêter sa voiture et il va féliciter l'instituteur en disant « mais c'est formidable ».
Vous faites des leçons de choses aux petits-enfants au sujet de cette terre qui ne ment pas.
Vraiment très très bien. Mon père ajoute dans Souvenirs et solitude avec humour, ce que le maréchal ne sait pas, c'est que l'instituteur applique les instructions de 1938 que j'ai moi-même éditées. Donc il y a des choses en effet que le régime de Pétain a gardées, d'abord parce que c'était peut-être difficile depuis, par manque de temps, et puis parce que ça marchait bien d'une certaine façon.
Jean Zay, Souvenirs et solitude, 14 mars 1942. En 1936, il parut tout d'abord essentiel de rendre à l'enseignement secondaire son caractère d'enseignement de culture, compromis par les classes pléthoriques. Quand un professeur s'adresse à 50 ou 60 élèves, il ne donne plus de leçons. Il fait un cours dont profite qui peut. L'enseignement du maître auquel deviennent impossibles les contacts personnels avec chaque élève perd une grande partie de son efficacité. Je fixais par circulaire à 35 élèves l'effectif maximum de chaque classe. Un chiffre plus bas encore eût même été souhaitable, mais cette première étape rencontra déjà bien des obstacles. Le mal était si profond que pour appliquer la nouvelle règle, il fallut dans le budget de 1937 créer 1200 chaires et dépenser 35 millions. La mesure eut un corollaire heureux, par là même elle procura des situations à un grand nombre de jeunes licenciés sans emploi. Les listes d'agrégation furent sensiblement étendues. Mais les besoins étaient tels que nous dûmes souvent faire appel à des délégués encore peu expérimentés. Autant que les classes trop peuplées, les méfaits du surmenage scolaire étaient un sujet classique de récrimination dans la presse et les congrès de parents d'élèves. Le fameux surmenage a un côté légendaire.
Il résulte beaucoup plus en réalité là où il se produit d'une pédagogie défectueuse ou de mauvaises méthodes de travail chez les enfants que de l'excès des programmes eux-mêmes. Les maîtres savent que lorsqu'on veut surcharger le cerveau d'un enfant, il élimine de lui-même une partie des matières exigées. Le mal est justement qu'il opère par instinct, sans discernement. Il n'en était pas moins certain que l'allègement des programmes s'imposait. Tout le monde le réclamait. Dans le domaine proprement pédagogique, l'organisation des loisirs ou activités dirigées constitua la principale nouveauté. Le samedi après-midi fut réservé à une classe dans laquelle il serait fait appel de 100 manières à l'activité spontanée de l'élève. Il s'agissait d'éveiller ses aptitudes ou ses dons, de favoriser ses goûts les plus sains, de le préparer à la vie, bref, de rendre l'enseignement plus vivant. Faites constamment appel à l'activité de l'enfant en accordant quelque confiance à sa liberté, précisaient les instructions de 1938. L'imagination des maîtres, jointe à celle des élèves, aboutit dans une atmosphère joyeuse et souvent enthousiaste à des résultats étonnants. On le vit bien lorsqu'en fin d'année furent organisées de petites expositions des loisirs dirigés, menus travaux manuels, herbiers, journaux de classe, dessins et chants chorales, représentations de pièces classiques, coutures, collections historiques ou minéralogiques. 1000 manifestations ingénieuses montrèrent quels enrichissements scolaires pouvaient être attendus de ces méthodes hardies. Ce fut dans nos établissements une fenêtre largement ouverte, un appel d'air, un renouvellement si évident qu'il échappa presque à la critique. Il n'est pas interdit de penser que des vocations durent au samedi après-midi de loisirs dirigés l'occasion de se révéler. Si le devoir de l'université est d'instruire, il est en même temps de veiller à la santé des enfants qui lui sont confiés. Un décret-loi créa la médecine préventive, l'examen médical obligatoire des élèves et bientôt des étudiants. L'éducation physique devenue obligatoire, la demi-journée de plein air allait être de règle dans tous les établissements. L'effort sportif dans l'enseignement fut facilité en 1937 par le rattachement du sous-secrétariat d'État de l'éducation physique et des sports au ministère de l'Éducation nationale. À la veille de la guerre, était signé un protocole général des sports qui avait réussi à mettre d'accord toutes les fédérations et dont les événements seuls ajournèrent l'entrée en vigueur. On encouragea le scoutisme, notamment par un patronage officiel aux éclaireurs de France, et la réception de Baden-Powell, le populaire BP, donna lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à une réception aussi officielle que chaleureuse.
À Paris, M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, préside la fête de la jeunesse, organisée dans le jardin d'acclimatation par les éclaireurs de France. C'est une joyeuse et pittoresque démonstration des aspects du scoutisme et de la vie en plein air.
Les auberges de la jeunesse, largement développées par Léo Lagrange, prirent leur étonnant essor. En même temps, dans le cadre, hélas, étriqué des crédits budgétaires, on construisait des stades et des piscines. La politique, ce n'était pas elle qui inspirait l'effort de réforme, uniquement dicté par des nécessités évidentes et qui n'ont pas cessé de s'imposer. Mais ce fut elle qui chercha à l'entraver, à le suspecter, à le discréditer. Des polémiques tendancieuses ou haineuses, l'avenir ne laissera rien subsister. Il ne fera pas disparaître les besoins auxquels on voulut répondre dans un travail de bonne foi qui dura 40 mois au milieu des tempêtes du monde extérieur. Et quand ces tempêtes qui durent encore sans cesse plus dramatiques se seront enfin apaisées, la grande œuvre universitaire leur survivra, oublieuse des hommes et de leurs passions éphémères.
Le maréchal Pétain, le chef de l'État, est venu ici visiter les différentes organisations de la jeunesse, de ces jeunes que leur chef a souhaité forts, sains de corps et d'esprit, préparés aux tâches qui élèveront leurs âmes de Français et de Françaises.
Je reviens au travail remarquable que Jean Zay et son sous-secrétaire d'État au sport, Léo Lagrange, réalisent avec ces auberges de jeunesse qui, en 1936, sont en train de vivoter. Le réseau existe déjà, mais c'est le gouvernement de Front Populaire et sous l'impulsion de Zay et de Lagrange, ces réseaux d'auberges de jeunesse, on n'y fait pas que dormir, il y a de la culture, il y a du théâtre.
Ça a une importance sociale importante de réunir les jeunes, enfin de fondre aussi les différentes classes, enfin, etc. Oui. D'ailleurs, juste un mot à propos d'auberges. J'ai appris très récemment, il y a 2 ou 3 jours, que l'auberge de jeunesse d'Orléans avait été inaugurée en 1938 par Jean Zay. C'est assez émouvant parce qu'il se trouve que moi-même, dans les années 95, années 2000, je me suis beaucoup occupée de l'auberge jeunesse puisque j'étais adjointe au maire d'Orléans, à la jeunesse en particulier. Alors cette auberge jeunesse était installée Faubourg-Madeleine. Vous vous rendez compte, elle datait de 1938, donc avec des installations qui étaient en 1995 complètement insuffisantes et vétustes, etc. Et j'avais fait transférer cette auberge jeunesse à la Motte Sanguin.
Au cours d'une tournée, le secrétaire général à la jeunesse, M. Georges Lamiran, a visité le camp de la Valette qui forme une partie des chefs des futurs chantiers où s'élabore l'esprit des hommes de demain. Il a pu voir ces groupes de jeunes hommes réunis par un même idéal et qui mènent une vie grande et simple dans un contact continu avec la nature, le travail, la simplicité, ces bases élémentaires de ce qui doit refaire le pays.
Les jeunes, après moi, vive la France ! Et vive le maréchal !
En prenant le pouvoir, Vichy récupère aussi ces outils et ces choses qui ont été installées par le Front Populaire, mais pour les détourner dans sa propagande nationaliste, etc. Et je pensais très précisément au chantier de jeunesse. Dans cette idée d'encadrement des gens et de la jeunesse, Vichy fait glisser les auberges de jeunesse vers les chantiers de jeunesse, former la jeunesse, des pratiques saines, un peu comme les copains nazis. Ça va se retourner contre eux parce qu'on sait que ces chantiers de jeunesse vont aussi produire beaucoup d'embryons de maquis et qu'il y a beaucoup de résistants qui vont en sortir aussi.
Oui, ça a rapidement dérapé. C'est vrai qu'au début, il y a même des gens qui n'étaient pas favorables à Pétain. Certains ont été un peu séduits par cette idée-là des chantiers de jeunesse parce que justement, il y avait cette idée de former et que la jeunesse était une priorité. Donc. Et puis, très rapidement, ils se sont rendus compte de cette dérive, peu à peu, et en particulier sur la question du sport. Hein. À nouveau, avec Vichy, le sport bascule du côté de l'embrigadement, disons, le formatage des jeunes.
Une préparation à l'armée.
Et oui, dans un contexte militaire.
Méthode qui s'appuie sur le perfectionnement des familles de mouvements naturels que procède la méthode d'entraînement général. Première famille, la marche.
Pour le Front Populaire et pour Jean Zay en particulier, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le sport doit être intégré à l'école et devient un support éducatif qui vise à former le jeune, mais dans des valeurs de solidarité, de respect des règles, enfin, etc. C'est deux conceptions du sport totalement opposées. Et on voit comment, avec Vichy, au départ, en effet, mais comme sur beaucoup d'autres sujets, Vichy a pu faire illusion. Et cette illusion, évidemment, n'a pas duré, en particulier à partir de 1942, je crois.
Monsieur Lamiran, ministre de la Jeunesse, va prendre la parole.
Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la révolution nationale. Une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Pour réaliser cette œuvre, il faut un enthousiasme et une pureté de cœur qu'on trouve essentiellement chez les jeunes. Les jeunes seront donc les principaux artisans de la révolution nationale. Cette révolution se fera sur le plan social. Les jeunes assureront à la France, dans la construction de l'Europe nouvelle, la place qui revient à son génie propre et à sa force retrouvée. Ils sauront renoncer, se sacrifier. Cette révolution, par eux, s'accomplira dans l'enthousiasme et dans la joie.
Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres bons garçons pour aller au bout de la terre.
Jean Zay, Souvenirs et solitude, 29 octobre 1942. À propos des réformes qu'il insuffle en tant que ministre de l'Éducation nationale entre 1936 et 1939. En dehors des mesures prises directement en sa faveur, et parmi lesquelles figurèrent les bourses d'enseignement supérieur plus que doublées et le rétablissement de la maîtrise d'internat, la jeunesse intellectuelle française bénéficia des réformes scolaires générales et des lois de lutte contre le chômage sous toutes ses formes. À aucune époque ne fut entrepris pour procurer des situations aux jeunes diplômés un effort plus grand que celui de 1936-1939. Il ne fut entravé parfois ou retardé que par les éternelles difficultés financières, cet obstacle irritant de l'orthodoxie budgétaire qui, pour quelques millions, dressait son mur inexorable devant les préoccupations d'avenir les plus sacrées. Cependant, par le rajeunissement des cadres et l'abaissement des limites d'âge, par la réglementation des cumuls, par le dédoublement des classes trop nombreuses, par la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans ou tout simplement l'ouverture de nouveaux établissements et les créations d'emplois qu'elles provoquèrent, ce furent plus de 10 000 postes que le ministère de l'Éducation nationale ouvrit à de jeunes activités. C'étaient là des postes qui correspondaient à leurs ambitions, à leurs études, à leur idéal de vie, à l'intérêt supérieur du pays, non des emplois de garde mobile ou de police secrète. Il n'était pas nécessaire pour sentir la nécessité de cet effort et le poursuivre de parler sans cesse de la jeunesse ni de la flagorner.
C'est aux jeunes qu'il s'adresse d'abord.
Voilà, chers jeunes.
De ces jeunes.
Les jeunes.
Les jeunes.
Secrétaire général à la jeunesse.
D'organisation de la jeunesse.
Essentiellement chez les jeunes.
Les jeunes gens de 17 à 21 ans.
Les jeunes.
Peut-être la plus jeune.
Les jeunes, après moi.
Depuis 2 ans, les discours, les feuilles officielles ne palabrent que sur la jeunesse. C'est une piètre démagogie. Il s'agit en réalité de la faire parler, de l'utiliser, de la ranger dans son camp. Nous avons connu naguère ces tentatives sur le plan électoral. Elles ont pris aujourd'hui des dimensions gouvernementales. Rien n'est plus stérile, rien ne tourne davantage le dos au but qu'on dit poursuivre. À quoi bon ces ministères de la jeunesse, ces directions de la jeunesse, dont il est sans cesse question dans la bouche de personnages, généralement âgés.
Oui, puis en somme, avec mon pipi, on me reconnaîtra.
C'est aux jeunes qu'ils s'adressent d'abord, en leur rappelant que le premier devoir est d'obéir, et que pour refaire physiquement et moralement notre race, la patience est aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage. Les élèves se rendent régulièrement au stade en chantant, suivant les principes de la doctrine appliquée pour l'éducation physique. Pour augmenter la résistance de chacun aux intempéries, les enfants se dévêtissent dans la mesure où le permet la saison. Des vagues, constituées d'après le degré de force et d'entraînement des élèves, sont divisées en faibles, moyens et forts. Marche autour du plateau et dérouillement des muscles. Cet exercice appartient à l'une des séries que comporte la leçon.
La jeunesse ne doit pas être traitée à part dans le pays par des organismes et des bureaux spéciaux. Ce serait bientôt l'isoler. Elle fait partie intégrante de la nation. Elle doit représenter une pensée constante, sans cesse présente dans tous les ministères, dans toutes les mesures qu'on prend. Elle, la jeunesse, ne doit rester étrangère à aucun plan d'avenir. Elle doit inspirer et animer les grandes pensées gouvernementales. Mais elle ne demande pas à faire bande à part. Ce qu'elle réclame surtout, c'est qu'on lui fasse confiance, qu'on ne lui oppose pas la routine, la timidité, l'avarice. Elle se méfie, comme elle a raison, de ceux qui ne viennent à elle qu'avec des grands mots à la bouche, des moralistes intéressés. « Servir, c'est la devise de tous ceux qui aiment à commander », écrit quelque part Giraudoux.
Français. Le maréchal Pétain parle à la France.
1941.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance.
Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée te salue, maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême ont répondu présent. maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous jurons.
Il la France, il le maréchal, il le maréchal,
il le maréchal.
Après avoir en 1940 ordonné le simulacre de procès de Jean Zay, Pétain passera lui aussi devant un tribunal, mais plus tard, en 1945. Pétain d'ailleurs jugé par des magistrats dont la plupart lui avaient quelque temps plus tôt juré allégeance.
Tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité.
Monsieur le maréchal, je jure fidélité à votre personne.
Serment de hauts fonctionnaires de 1942. 3 ans plus tard, procès Pétain. Pétain est inculpé de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Mais comme une armée de traîtres se cache derrière l'accusé, parmi eux d'influents industriels et banquiers, militaires et fonctionnaires, il va falloir expédier le procès et faire porter au seul maréchal la trahison des autres.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice.
Juger les traîtres détruirait le mythe gaulien d'une France résistante, dont Jean Zay a d'ailleurs été évacué. À ce procès Pétain, le chef du gouvernement de Front Populaire de 1936, Léon Blum, témoigne.
Croyez-vous que le maréchal est exercé sur l'aval de l'influence, ou que ce soit l'aval qui est exercé de l'influence sur le maréchal?
C'est encore une question bien dangereuse que vous me posez. Je connais Laval, en effet, mais je ne connais pas le maréchal. A-t-il agi par ambition? Mais oui, c'est possible, mais vous m'obligez ici à entrer sur un terrain où je n'aurais pas voulu pénétrer. Y a-t-il eu chez lui ce dessein prémédité, dans le désastre de la patrie, de trouver une occasion de pouvoir personnel que peut-être, depuis 6 ans, il m'avait attendu?
Les nazis ont envoyé Léon Blum à Buchenwald, mais pas au régime général des déportés, mais dans une prison du camp, où il est conservé comme monnaie d'échange. De 1940 à 1944, Jean Zay, lui, reste en prison à Rion, en zone sud contrôlée par Vichy. Bien que sa détention soit extrêmement éprouvante, pendant environ 3 ans, il n'est pas soumis à l'effroyable régime de bagnard de certains autres prisonniers. Ancien ministre et parlementaire, il obtient par période une sorte de statut proche de celui de prisonnier politique, régime qui sera parfois très dur et qui sera épouvantablement durci à la fin. Pendant une partie de ses 4 années de détention, Jean Zay jouira donc de quelques privilèges, comme d'obtenir certains livres et journaux, pouvoir écrire ou fumer, et à certaines périodes recevoir sa femme et ses 2 petites filles en cellule. Mais selon les normes d'aujourd'hui, la détention de Jean Zay nous apparaîtrait épouvantable. On sait que le régime fasciste de Vichy ne s'embarrassait pas pour assassiner et faire disparaître les gens. Or, Blum et Zay étaient trop connus pour qu'on les fasse disparaître comme ça. Et l'on pourrait imaginer que, cherchant à ne pas trop se discréditer aux yeux de l'opinion publique, Vichy tente de se donner des allures d'État qui a encore des lois, et donc ne tue pas les gens n'importe comment. Alors Hélène Moucharzé, pour tenter d'apparaître comme un régime légitime, Vichy ne doit-il pas essayer un minimum de simuler un semblant de justice, même si ce n'est qu'une sinistre mascarade jouée d'avance?
Le procès du 4 octobre 40 est absolument plus que scandaleux par sa forme. Vichy voulait obtenir la condamnation à mort, il voulait le faire fusiller. Au départ, il est l'objet d'une double inculpation, d'abandon de poste et de désertion. Si je puis dire, le crime d'abandon de poste est puni de mort. Donc on l'inculpe d'abandon de poste. Et c'est là où Antoine Prost dit qu'il est convaincu que Pétain voulait le faire condamner à mort comme De Gaulle. De Gaulle vient d'être condamné à mort par exactement le même tribunal militaire que celui qui juge, entre guillemets, Jean Zay. ils sont obligés d'abandonner cette inculpation parce que franchement, elle ne tient pas. Quoi. Et même avec la mauvaise foi la plus grande du monde, ils n'y arrivent pas. Ils maintiennent quand même la désertion en ajoutant devant l'ennemi. Je pense que Jean Zay intéressait davantage Vichy que les Allemands. La preuve, c'est que toute la persécution de Jean Zay vient de Vichy. Alors évidemment, on a retrouvé des articles, évidemment, et pour les Allemands, c'était un juif, etc. Donc. Mais quant à Blum, je crois que, en particulier son transfert à Buchenwald, donc le protégeant d'une certaine façon, paradoxalement, hein, Vichy voulait se servir de Blum comme d'un otage. Dans l'esprit de Vichy, c'est une monnaie d'échange avec les futurs vainqueurs. Enfin bon, c'est-à-dire ils le mettent finalement à l'abri. Mais ça n'a pas été le cas de Jean Zay, parce qu'en maintenant Jean Zay en prison pendant toutes ces années, et avec ses attaques perpétuelles dans la presse d'extrême droite, qui le désigne comme anti-munichois, parce que c'est ça, ce qui est publié, ses notes après le Conseil du ministre, c'est franchement le désigner au bras des assassins. Puis ensuite, Vichy l'a évidemment livré à la milice. Donc je crois que le sort de Jean Zay de Blum n'est pas le même. Moi, je suis convaincue que ce qui a sauvé Blum, c'est qu'il n'était pas militaire. Au fond, ce qui a permis à Vichy d'attaquer Jean Zay comme Mendès France, c'est qu'ils se sont engagés dans l'armée. Ce qui a donné la possibilité à Vichy de les accuser de désertion. Ils n'avaient pas ce motif-là avec Blum. Et donc, il a fallu qu'ils mettent en place tout ce procès de Rion qui a tourné à la déconfiture de Vichy. Je crois que Jean Zay était, parce que ministre de l'Éducation nationale, pour les antisémites, c'est vraiment la pire des choses. Le juif qui s'occupe d'éducation, c'est vraiment le pire des juifs. Le juif assimilé, puisque la famille côté de mon père était de ces Français juifs complètement assimilés et qui n'avaient plus de pratiques religieuses, et qui s'occupe d'éducation, c'est vraiment les pires. C'est des juifs qui sont devenus invisibles dans la population française, qui se sont complètement fondus, donc qui sont d'autant plus dangereux, parce qu'ils restent toujours juifs.
Or, le mal vient de ce que